Il est allé en toute hâte vers les quais pour acheter son billet. Quelques personnes faisaient la queue et il s'est joint à eux. Mais le caissier a dit à la personne qui le précédait que c'était complet. Il allait donc partir pour essayer de trouver un autre bateau quand le téléphone a sonné. Alors le caissier se tourne vers lui et dit « Ne t'en va pas, je viens juste de recevoir une annulation. Monsieur Schtroumpf a été hospitalisé et il ne pourra pas être du voyage. » Jonas s'est dit « Quelle heureuse coïncidence! Peut-être que j'ai raison d'aller à Tarsis. » Bon, d'accord, ça ne s'est pas passé comme ça, mais l'esprit y est. Bien qu'il était en fuite loin de la présence de l'Éternel, qui sait si Jonas n'était pas en paix avec sa conscience, car aussitôt qu'il a embarqué, il est descendu dans la cale et s'est endormi du sommeil du juste. Il s'était peut-être dit qu'après tout, il avait sans doute mal compris ce que Dieu lui demandait. Vous me direz que ce raisonnement ne tient pas debout, et pourtant, il m'est arrivé d'argumenter avec moi-même afin de me justifier quand je ne voulais pas obéir à ce que je savais être la volonté de Dieu, et j'arrivais ainsi à me convaincre que je pouvais faire ce que je voulais. Un autre raisonnement bâtard consiste à se laisser bercer d'illusions par des circonstances fortuites, heureuses. En fait, à travers l'histoire, beaucoup de croyants fidèles à Jésus-Christ ont souffert à cause de leur foi. Dans le Nouveau Testament, un auteur écrit « Grâce à la foi, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. » Fin de citation. Par la foi, certains ont échappé aux tranchants de l'épée, tandis que d'autres ont été mis à mort par l'épée. Ce n'est pas parce que tout va bien ou que tout va mal que je suis ou pas dans la volonté de Dieu. Dans le cas de Jonas, il savait fort bien que Dieu voulait qu'il aille prêcher dans la capitale assyrienne. D'un autre côté, dans toute l'histoire d'Israël, jamais un Israélite n'avait été envoyé spécifiquement à toute une nation païenne pour donner un message de la part de l'Éternel. C'était le contraire. Dieu avait placé la nation d'Israël au carrefour de trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ce qui faisait de son territoire un grand lieu de passage, une sorte de hall de gare, en somme. Quand les caravanes traversaient le pays, les étrangers pouvaient observer comment les Israélites servaient et adoraient le seul vrai Dieu, et ainsi apprendre à le connaître. C'est de cette manière que la reine de Sheba et des représentants du monde entier sont venus entendre la sagesse de Salomon. Dans un passage, on lit « Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. Mais le plan de Dieu n'a pas marché parce que les Israélites ont été infidèles, y compris Salomon et plus tard le prophète Jonas. » Je continue à lire dans le premier chapitre du livre qui porte son nom. L'Éternel adressa la parole à Jonas en ces termes « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Versets 1 à 4. Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jonas reçoit l'ordre d'aller à Ninive. Il prend le bateau pour aller dans la direction opposée, quelque part en Espagne, dans les environs de Gibraltar. Mais son voyage commence très mal, ce qui me fait penser qu'on pourrait structurer le livre de Jonas en fonction des départs et arrivées du prophète. Quand on prend l'avion pour une destination internationale, il faut toujours se présenter des heures en avance. Une fois les bagages enregistrés, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience en regardant les vitrines des magasins et en comparant les prix des produits détaxés qui semble toujours plus cher à l'aéroport qu'en centre-ville. Inéluctablement, on regarde l'heure pour être sûr de ne pas manquer l'embarquement. Quand on est devant l'un de ces écrans qui se trouvent un peu partout, on peut aussi consulter les horaires de vol de plusieurs dizaines d'avions qui partent pour aller un peu partout dans le monde. Jonas n'a pas pris l'avion, mais au tout début du récit, il quitte la terre d'Israël en bateau pour se rendre à Tarsis, mais il subit un fâcheux contretemps puisqu'il atterrit dans le ventre d'un poisson et c'est ainsi que se termine le premier chapitre du livre. Dans le deuxième, il quitte le poisson ou plutôt il est dégurgité et se retrouve sur la terre ferme au bord de la Méditerranée, probablement en Israël. Au troisième chapitre, on efface tout, retour à la case départ et on recommence. Pour la seconde fois, l'Éternel donne l'ordre à son prophète de se rendre à Ninive. Il quitte donc son pays pour la deuxième fois, mais va dans la bonne direction et arrive à bon port. Il remplit sa mission avec succès, mais pour Jonas, tout ne va toujours pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au quatrième et dernier chapitre du livre, Jonas ne va nulle part, mais tourne en rond, littéralement, ainsi que dans sa petite tête de linotte, parce qu'il conteste toujours la manière d'agir de l'Éternel. Alors que le bateau fonce toute voile dehors direction l'Espagne, Jonas est dans la cale et dort à point fermé, ce que le texte nous apprend un peu plus loin. C'est alors que l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Tout au long du livre, l'auteur, qui n'est autre que Jonas lui-même, souligne la souveraineté de Dieu. Ici, l'adjectif « grand » apparaît deux fois pour bien mettre l'accent sur le caractère extraordinaire de cette grande tempête déclenché par l'Éternel, qui fait souffler un grand vent qui soulève le bateau comme si c'était un vulgaire fétu de paille. Le psalmiste écrit « Tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. Éclairs, grêle, neige, brume, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. » Fin de citation. Ici, c'est Dieu qui déclenche cette tempête pour arrêter la fuite du prophète et le remettre sur les rails, afin qu'il aille dans la bonne direction. Au deuxième siècle de notre ère, dans son commentaire sur Jonas, le théologien et père de l'Église Tertullien écrit « Fuyant le Seigneur sur la terre, il le trouva dans la mer. » Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples sur un bateau de pêche, et qu'ensemble ils traversaient le lac de Galilée, l'Évangile dit « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Fin de citation. Les disciples sont des pêcheurs professionnels et donc des marins accomplis, qui savent comment naviguer au travers des tempêtes qui éclatent brusquement sur ce lac. Mais cette fois-ci, ils savent qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à ce tourbillon qui s'est jeté sur eux, car il est surnaturel. C'est Satan qui l'a manigancé afin de tuer Jésus et ses disciples. Ces derniers sont dans un état de panique, alors que le Seigneur dort paisiblement, car rien de fâcheux ne peut arriver au maître du ciel et de la terre. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Les marins qui voyagent avec Jonas vont avoir une rude journée. On peut résumer tout ce qui va se passer sur le bateau en quelques courtes phrases. Les marins sont terrifiés. Les marins implorent leur Dieu. Les marins allègent le navire. Jonas dort paisiblement. Le capitaine s'adresse à Jonas. Les marins tirent au sort qui tombe sur Jonas. Les marins lui demandent « Mais qui es-tu ?» Jonas explique qui est l'Éternel et qu'il le fuit. Les marins sont terrifiés. Les marins demandent à Jonas ce qu'ils doivent faire. Jonas dit « Jetez-moi à la mer ». Les marins essayent de rejoindre la côte. Les marins invoquent l'Éternel. Les marins jettent Jonas par-dessus bord. La mer se calme. Les marins sont terrifiés. Voyons maintenant le texte en détail. L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Verset 5. Le verbe « descendre » est utilisé trois fois dans ce récit pour évoquer la fuite de Jonas sous la forme d'une descente. D'abord, il descendit au port de Jaffa, puis il descendit dans le bateau, et enfin, il était descendu dans la cale. On pourrait ajouter qu'il sombra dans le sommeil, le dernier refuge du prophète en fuite. En tout cas, il est tout à fait indifférent à la tempête qui commence pourtant à disloquer le navire. Il faut dire qu'il est physiquement éreinté et mentalement épuisé par l'angoisse. Alors maintenant qu'il se croit en sécurité et désirant être seul, il descend en fond de cale où il s'écroule inconscient du danger. Le mot pour « dormir » dénote un sommeil très profond. C'est aussi en dormant sur le mont des Oliviers que les disciples de Jésus dissiperont leur angoisse tandis que leur maître lutte dans la prière. Le texte dit que Jésus les trouva endormis tant ils étaient accablés de tristesse. Je dois avouer que je ne comprends pas comment on peut dormir dans une situation pareille. Pour ma part, si je suis tant soit peu angoissé, je ne ferme pas l'œil. Pendant ce temps, pendant que Jonas dort à point fermé, les matelots qui venaient d'horizons différents invoquent chacun leur Dieu pour deux raisons. D'une part, ils craignent d'en avoir offensé un et d'avoir ainsi attiré sa colère. Et d'autre part, ils veulent être délivrés d'une mort certaine. Tout au long du livre, les païens ont bonne presse car ils sont décrits comme pieux et sincères. Afin d'alléger le navire, les marins terrifiés jettent à la mer toute la cargaison qui se compose probablement d'articles fabriqués en Palestine que les Phéniciens échangeaient contre divers métaux dont l'argent. Je continue le texte de Jonas. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être que le Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas ?» Verset 6. Les prières des marins n'ont pas été exaucées et le capitaine a remarqué l'absence de Jonas alors qu'il veut tout le monde sur le pont en train d'invoquer son Dieu. Il va le chercher et l'interpelle. « Comment peux-tu dormir alors que nous sommes sur le point de sombrer ?» En hébreu, l'ordre du capitaine, Mets-toi debout est le même que celui de l'Éternel quand il a dit à Jonas, mets-toi en route. Pareillement, le verbe rendu par prie est le même que celui qui a été rendu par proclame. Quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et proclame des menaces. Assez curieusement, après avoir demandé à Jonas de prier son Dieu, le capitaine ajoute « Peut-être que le Dieu se souciera-t-il de nous ?» Cet article « le » n'est pas anodin, car bien que ce capitaine soit polythéiste, il a la vague notion d'un Dieu unique. Alors qu'il a de la peine à se réveiller, c'est comme si Jonas entendait à nouveau l'ordre de Dieu, mais cette fois-ci de la part d'un idolâtre ignorant. C'est ce dernier qui rappelle à l'ordre et à son devoir le serviteur de l'Éternel qui aurait dû prendre l'initiative d'invoquer le seul vrai Dieu puisqu'il le connaît. La scène est pleine d'ironie, et ces détails nous sont donnés pour montrer que le prophète infidèle est tombé à un niveau spirituel plus bas que des païens. Je continue le texte. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Verset 7. Tirer au sort était une pratique habituelle dans tout le Proche-Orient pour connaître la pensée des dieux. Elle était utilisée pour découvrir un criminel qui avait échappé à toutes les recherches et qui attirait la malédiction sur tout le peuple. La croyance que les calamités sont souvent causées par la présence de quelqu'un ayant commis un acte coupable se trouve chez certains auteurs classiques de l'Antiquité. Quand on va dans certaines églises, on peut lire des ex-voto composés par des gens qui croient avoir été l'objet d'une grâce spéciale de la part de Dieu. Mais cette pratique n'est pas nouvelle, car elle était très répandue dans l'Antiquité. Cicéron raconte aussi qu'un certain Diagoras s'arrêta dans une île de la mer Égée afin de contempler les ex-voto qui avaient été envoyés par les marins ayant survécu à un naufrage. C'est alors qu'un homme qui savait que Diagoras était connu pour son athéisme lui a dit « Toi qui penses que les dieux ne s'occupent pas des affaires humaines, ne vois-tu pas, d'après ces peintures, combien sont nombreux ceux qui, grâce à des vœux, ont échappé à la fureur de la tempête et sont parvenus au port sain et sauf ?» Ce à quoi Diagoras aurait répondu du tac au tac, « Non, car nulle part on a peint tous ceux qui ont fait naufrage et ont péri en mer. » Fin de citation. Ici, les marins qui croient savoir distinguer un phénomène naturel d'une intervention surnaturelle se sont rendus compte que la violence de la tempête était anormale et qu'elle était donc d'origine divine pour punir l'un d'entre eux. L'Éternel désapprouve toute méthode occulte qui essaye de connaître l'avenir ou de percer un mystère. Il n'approuve donc pas ce tirage au sort, mais parce qu'il est le Dieu souverain, il a utilisé cette pratique pour désigner son serviteur infidèle. Dans le livre des Proverbes, le sage écrit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Pareillement, dans l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, il est question de la sorcière d'Endor qui, à la demande du roi Saül, essaya de consulter le juge Samuel dans une séance spirite ordinaire. Mais quand elle vit Samuel remonter du séjour des morts, elle fut stupéfaite et poussa un cri, parce qu'elle n'y était pour rien. En effet, c'est Dieu qui le ressuscita pour quelques instants, car lui seul a ce pouvoir. Jésus dit « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Cela dit, en Israël, le tirage au sort était souvent utilisé par les prêtres au moyen de deux objets qui s'appelaient l'Urim et le Thummim. Mais cette pratique avait été ordonnée par l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, le tirage au sort n'est mentionné que par Luc. Il écrit qu'il était utilisé par les prêtres juifs pour désigner celui d'entre eux qui entrait dans le lieu saint pour offrir le parfum et qu'il fut employé par les 11 apôtres pour choisir celui qui remplacerait Judas. Ces deux exemples sont des vestiges de l'Ancien Testament. Les chrétiens abandonnèrent cette pratique après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Je continue le texte de Jonas. Alors les marins lui demandèrent « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur, quelles sont tes occupations, d'où viens-tu, de quel pays et de quel peuple es-tu ?» Verset 8. Il est évident que jusque-là, Jonas a été le plus discret possible. Ayant payé sa place, il voulait qu'on le laisse en paix. Mais maintenant que les matelots croient avoir découvert qu'il est responsable de cette terrible tempête, ils font une investigation complète et le bombardent avec 5 questions pour découvrir exactement qui il est et ce qu'il a bien pu faire de mal. Je continue. Jonas leur répondit « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Verset 9. Se voyant découvert, Jonas rend un témoignage juste au Dieu d'Israël, tout en laissant apparaître sa fierté d'appartenir à ce peuple et à ce Dieu, alors qu'il lui tourne le dos. En une courte phrase, Jonas donne beaucoup d'informations aux matelots. Les Hébreux étaient connus pour être officiellement monothéistes, encore que l'idolâtrie a toujours été répandue en Israël. Pour les marins, le dieu de Jonas était une divinité parmi d'autres, mais en l'appelant l'Éternel, le prophète affirme qu'il est le dieu qui a fait alliance avec son peuple. De plus, il ajoute qu'il est le créateur de la terre et de la mer, ce qui signifie que contrairement au dieu des marins, qui règne sur une localité, l'Éternel est souverain sur le monde entier et même sur cette mer en pleine furie. Cela veut aussi dire que Dieu contrôle toutes mes circonstances, les bonnes et les autres. Alors, avant de me lamenter ou de ruer dans les brancards, je devrais reconsidérer où j'en suis avec Dieu.